16h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Ça y est, dessus de table, c'est l'émission qui mange le morceau. Alors,
et qui démarre sur les chapeaux de roue aujourd'hui.
Ah là, franchement, mais on est tout terrain, Manu. Bonjour, absolument. Bienvenue, vous le savez, le samedi, on parle de cuisine dans cette émission avec Manuel Mariani. Il fait un métier incroyable, il est payé pour manger.
C'est vrai.
Vous payez pour aller manger, lui, il est payé pour manger. Et ouais. En plus, pour vous raconter ce qu'il a mangé.
Michel Piau, qui était journaliste gastronomique au Figaro, très célèbre journaliste gastronomique, qui a disparu aujourd'hui d'ailleurs, hélas, il avait écrit un livre qui s'appelait « Et on vous paye pour ça ». Voilà. Qui racontait sa vie de journaliste gastronomique.
Ça résume tout, hein, finalement, tout est dans le titre.
C'est ça.
Tiens, en parlant de journalistes, alors culinaires, gastronomiques, nous avons invité aujourd'hui Camille Labro, Manu.
Ah oui, Philippe, Camille Labro, elle est journaliste culinaire pour M, le magazine du Monde, auteur de livres, mais aussi de séries documentaires sur la gastronomie, notamment pour les chaînes Arte. Et là, ça démarre tout de suite, c'est l'actu aussi sur Planète, Planète Plus, pardon, hein, il ne faut pas oublier le Plus, maintenant que c'est dans le groupe Canal Plus. Camille, elle est très impliquée dans les questions relatives à l'agriculture raisonnée, l'environnement et la culture populaire aussi. Donc ça résume un peu son livre dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Alors un autre livre qu'elle avait écrit l'année dernière, il y a deux ans, Fourche et Fourchette, aborde justement ces sujets. Elle a reçu le prix des Savoureuses au Salon International du Livre Gourmand de Périgueux en 2016. Mais aujourd'hui, donc, c'est pour son nouvel ouvrage « Affaires de goût, 80 recettes mémoires » que nous recevons Camille Labro. Alors, « Affaires de goût », c'est un recueil qui reprend 80 de ses meilleures chroniques éponymes dans M, le magazine du Monde, je le dis à nouveau. Mais contrairement à beaucoup de ses consoeurs et confrères qui publient des recettes de chefs, Camille Labro fait appel à des personnalités que je qualifierais de satellites, un peu.
C'est ça. Hein,
puisque sans être chef de cuisine, ce sont des personnalités qui sont liées au monde de la gastronomie. On découvre donc l'univers alimentaire de journalistes gastronomiques, d'écrivains culinaires, de photographes culinaires, d'acteurs de la filière alimentaire aussi, à travers une de leurs recettes fétiches. Est-ce que j'ai bien pitché le livre, Camille ?
C'est ça, à peu près. Bonjour, vous deux. C'est un recueil de ces chroniques. En fait, c'est une chronique que je tiens depuis 2012 dans le magazine du Monde et où je demande effectivement à des gens de l'univers de la gastronomie et qui la fréquentent de près ou de loin, mais de diverses manières, puisqu'on a aussi des designers, des paysans, des philosophes, des sociologues, des historiens, géographes, journaliste, auteur, beaucoup d'auteurs, poète même.
Ouais, c'est très varié parce qu'il peut y avoir un alors je dis au hasard, hein, je me rappelle plus du CV de toutes les personnes dont vous citez les recettes, mais on peut avoir un architecte, blogueur food par exemple.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais il y a toujours un intérêt pour la cuisine.
Voilà, le point commun à tous, y compris j'ai aussi une grande créatrice de mode puisqu'Agnès B est dans le livre et un acteur.
Elle fait une soupe d'une simplicité magnifique.
Ah oui, qui est
incroyable.
Un délice, qui est imbattable. Hein, c'est un succès systématique.
Ça coûte trois fois. Oui, il y a très peu d'ingrédients. C'est une merveille.
Trois ingrédients.
Ouais. Il y a du fenouil.
Fenouil, patate et un petit peu de parmesan sur le dessus pour le goût. Ah, et un petit peu de cumin.
Franchement, c'est sublime.
Ouais. Et un acteur aussi, une chanteuse, Camille.
Oui, Camille.
Qui porte mon prénom. Mais la raison pour laquelle ils sont là, c'est que, bien qu'ils aient une profession qui n'est pas dans la cuisine, ils sont très, très intéressés, très branchés cuisine. Donc, c'est pour ça que je vais les chercher. S'ils disent oui, c'est aussi qu'ils ont quelque chose à dire, quoi, quand je leur propose.
Oui, enfin, il y a des gens qui s'expriment parfois, qui acceptent de s'exprimer dans les médias, qui n'ont pas toujours quelque chose à dire. Mais enfin, c'est un autre problème. Mais si vous les avez sélectionnés, effectivement, voilà. On vous fait confiance. Alors, justement, comment vous les sélectionnez, vos invités, Camille? Comment est-ce que vous les choisissez? C'est des rencontres?
C'est vraiment tout. Ça a évolué, en fait, depuis le début de la chronique dans le magazine.
Ah, parce que vous en êtes à combien de chroniques là?
Là, il y en a 80 dans le livre, oui. Mais je crois que, et j'en fais, je continue, hein, ça continue toutes les semaines dans le M, qui paraît d'ailleurs le samedi, ouais. Aujourd'hui. Il y a une nouvelle chronique, donc je crois que là, j'en suis à presque 200. Au début, en 2012, c'était mensuel. Et puis comme ça marchait bien, que les gens en demandaient, on a décidé de passer ça en hebdo, je crois, un an plus tard. Et depuis, c'est hebdomadaire, donc je sais pas, faut faire le compte, mais j'en suis à peu près à 200.
Vous avez de quoi faire un affaire de goût deux, le retour. Quoi,
oui, gros, hein. Même trois, je crois.
Oui, c'est ça.
On pourrait faire trois tomes. Mais non, la sélection de mes interlocuteurs se fait. C'est très varié. C'est-à-dire que parfois c'est d'une évidence. Enfin, je pense, je sais pas, ma consoeur Esther El Payani, par exemple, qui est à la fois une formidable cuisinière, qui a fait plein de bouquins de cuisine, qui parle de cuisine sur une autre radio, qui écrit sur la cuisine dans un journal même groupe que Le Monde, Télérama.
Télérama, oui.
Elle, c'était une évidence. Elle avait l'embarras du choix de recettes à me raconter et plein de choses à dire dessus. Donc parfois ce sont des gens que je connais directement, personnellement. D'autres fois, je tombe sur un article, sur quelqu'un qui a l'air de savoir quelque chose qui m'intéresse. Parfois c'est aussi des gens qui viennent vers moi et qui me disent ah bah tiens, je pense que tu pourrais être intéressé par tel profil. Et puis après je les contacte.
Vous avez des rabatteurs.
J'ai quelques-uns. mais parfois pas des bons.
Oui, il y a eu des mauvaises pioches parfois.
Non, c'est-à-dire que très souvent on essaie de me rabattre des chefs. Et ça, s'il y a bien ce que je l'explique dans l'introduction du bouquin, s'il y a bien une catégorie que je ne fais pas, ce sont les chefs. Pour la simple et bonne raison que bon, déjà les chefs on en parle beaucoup. J'en parle beaucoup. Par ailleurs, dans mes autres articles, parce que je fais pas que ça.
Oui, bien sûr.
Ils captent beaucoup la lumière. Et en fait, le propos des affaires de goût, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas de parler de recettes qui font rêver, qui sont un vrai challenge dans la cuisine, où il faut des ingrédients compliqués qu'on sait pas où trouver. Non, pas du tout. C'est des recettes de tous les jours. Et donc, c'est vos recettes, c'est mes recettes, c'est ces recettes, c'est des recettes de tout le monde.
C'est la cuisine du quotidien.
C'est la cuisine du quotidien.
Et
la cuisine populaire.
Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant dans vos écrits, c'est que ça parle toujours effectivement de gastronomie, mais vous rentrez toujours par une porte de service.
Oui.
C'est-à-dire soit par effectivement un amateur de cuisine, mais qui n'est pas chef. Vous allez rentrer par une autre porte qui est le produit.
Oui.
Ou par une autre porte qui est un type de cuisine. Je sais pas moi, la cuisine indienne par exemple, c'est vous allez ça. Rentrer dans
tout ramène toujours à la table, hein.
Oui, absolument. On finit toujours par se mettre à table.
Mais tout à fait, mais moi c'est ça que j'adore. J'adore rentrer par la petite fenêtre pour arriver à la table. Et j'emmène mes interlocuteurs dans ce périple et dans ce récit que les gens en général prennent beaucoup de plaisir à faire, à partager. Pour moi, la cuisine, la nourriture, l'alimentation, le plaisir de manger, c'est l'une des choses les plus importantes de nos vies, de la journée. Et donc, j'aime amener à la table par des histoires personnelles, par des anecdotes, par des émotions. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. En fait, on parle beaucoup d'émotions dans les affaires.
C'est la manière d'une conteuse.
C'est ça.
Ouais.
Mais je raconte des histoires. Hein, c'est mon métier. Je fais que ça. Je raconte des histoires tout le temps. Les histoires des autres.
Affaire de goût, c'est d'abord une expression populaire. Comment est-ce que votre mère, elle, vous a appris le goût?
Ah, bonne question. J'espère qu'elle m'écoute. Elle m'a appris le goût avec une grande intransigeance. C'est-à-dire que je n'ai jamais... goûter à des à mon souvenir, hein, j'ai peut-être oublié, mais je n'ai jamais goûté de mauvaises choses, de mauvais goûts. Ça pouvait être des goûts forts, ça pouvait être des goûts intenses et étrangers et parfois difficiles pour un enfant, mais
déconcertant.
Ma mère est une formidable cuisinière, très grande cuisinière qui n'en a jamais rien fait professionnellement, mais je peux vous dire que les amis de la famille rêvaient de se faire inviter chez les Labros pour venir dîner.
Comme la plupart de beaucoup de femmes qui cuisinent pour leur famille.
Ah bah oui, mais elle est assez particulière parce que j'ai le souvenir d'elle qui prenait des journées entières à préparer des dîners pour 4 ou 5 personnes quand on avait des amis. Il y a des femmes qui sont capables de faire un dîner en quelques heures. Elle, c'était vraiment une pratique sur la durée. Et dans l'effort, c'était pas toujours rigolo d'ailleurs, hein, ça, c'est, des fois ça chauffait dans la cuisine.
C'était pas spontané finalement, hein.
Faire à manger était pour elle un challenge perpétuel. Je sais pas si
c'était spontané. Un challenge.
C'était un challenge, ouais. C'était un défi et elle aimait vraiment pas rater des plats. Hein. Alors ça c'était le drame.
Mais on dit toujours qu'il y a une femme qui cuisine derrière un grand chef. Est-ce que il y a aussi une femme qui cuisine derrière un auteur culinaire ou un journaliste gastronomique à votre avis?
Bah pour moi oui bien sûr. Si j'avais pas eu ma maman, je suis pas sûre que j'en serais là et que j'aurais la même approche de la nourriture.
Ouais mais elle avait globalement du goût. C'est-à-dire qu'elle avait du goût pour tout.
Enfin, oui.
Pour la cuisine mais elle avait du goût pour la décoration.
Absolument.
Donc c'était...
Vous la connaissez ma maman?
Je l'imagine. Et
mais
pourtant,
c'est vrai,
et pourtant
c'est vrai,
le plat d'elle que vous aimez, il est très simple, c'est rougé à l'ail.
Ouais.
Donc c'était pas très élaboré pour le coup.
Non, mais il y en a plein d'autres dont je pourrais parler. Il y avait aussi une incroyable tourteau au lapin que faisait qui est la vérité de sa mère à elle. Ma grand-mère était une très bonne cuisinière, mais ma mère a encore dédoublé ce talent. Et effectivement, comme vous dites, Philippe, c'est une artiste de la vie. C'est moi, c'est une peintre, c'est une graphiste, elle fait des parfums. Et elle cuisine divinement bien, donc
c'est une artiste et la cuisine c'est un peu de l'art aussi.
C'est ça, c'est ça. Mais elle, ça a toujours été de l'art de vivre et qui n'a jamais été en fait une profession autre que pour ses proches.
Et pourtant vous dites que finalement dans les histoires de goût, puisqu'on a tous un goût qui est hérité, c'est plutôt la grand-mère qui est importante.
Alors dans beaucoup d'histoires
des gens que vous voyez, ouais, c'est pas vraiment la mère, mais c'est plutôt la grand-mère.
En majorité, c'est plutôt la grand-mère. Et je me suis beaucoup interrogée avec Julie Balaguet, qui est la photographe qui m'accompagne sur les affaires de goût, sur le pourquoi de ces grand-mères. Elles sont vraiment... Vous savez, il y a un garçon qui s'appelle Jonas Pariente qui fait le Grand Mass Project aussi, qui est formidable. Ce sont des il demande à des gens de
la cuisine des grand-mères.
Voilà, ouais. D'aller chercher une recette avec leur grand-mère, de faire raconter à leur grand-mère leur cuisine. Il y a vraiment ce phénomène qui transparaît dans les affaires de goût à répétition. J'irai quasiment une fois sur deux, on nous parle de la grand-mère. Hein.
Ouais.
Et alors bon, parfois c'est parce qu'il y a cette fameuse rupture de générationnelle avec les baby boomers. Que nos mamans, à notre génération, quarantenaire, ne voulaient plus cuisiner. C'était pour elles une corvée, donc il fallait se sortir de cette corvée quotidienne. Moi, ma mère est pas du tout comme ça, même si c'était une vraie baba cool à son époque. Mais je pense aussi qu'il y a un lien beaucoup plus déculpabilisé à la cuisine avec les grand-mères. C'est-à-dire que la maman, elle doit nourrir. Elle a une tâche, un devoir. Pour la grand-mère, c'est pas un devoir, c'est un plaisir. C'est le fun. C'est de faire des gâteaux avec les petits-enfants, etc. Et je pense que c'est pour ça.
C'est le supplément d'amour en plus.
C'est le supplément d'amour et de liberté. Il n'y a pas d'obligation.
Transmettre aussi, mais pour aller encore plus dans votre sens, ça aussi c'est générationnel, c'est que de plus en plus les mamans travaillent et que du coup quand elles font à manger à la maison, elles n'ont pas le temps d'expliquer aux enfants, elles font ça rapidement parce qu'elles n'ont pas le temps, alors qu'avec la grand-mère, là on a plus le temps.
C'est c'est ça. Mais ça, Manuel, j'ai un mot à dire là-dessus, sur cet argument, je travaille, j'ai pas le temps de faire à manger, etc. On peut s'organiser. C'est une question d'organisation. J'ai récemment elle est pas dans le livre, mais j'ai récemment fait. Je crois que c'est celle qui paraît aujourd'hui. Si je ne m'abuse, fait une affaire de goût avec Keda Black, qui est auteur aussi culinaire.
Et qui travaille beaucoup.
Qui travaille beaucoup. Elle est comme moi. On travaille beaucoup toutes les deux toute la journée et tous les soirs on fait à manger pour nos enfants. J'ai trois enfants. Elle en a quatre. On fait toujours à manger. C'est possible de faire les deux.
Mais
il faut s'organiser.
Est-ce que la question, c'est de se dire finalement, est-ce que la cuisine, la grand-mère cuisine mieux que la mère?
Non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. C'est la vision subjective de l'enfant. Et
mais
du
parce
petit
que
enfant.
Beaucoup, on a cette vision-là.
Oui, puis la grand-mère a appris à la maman, donc on se dit que forcément la grand-mère en sait plus. Ouais.
Oui, mais alors moi, en ce qui me concerne, non. J'aimais beaucoup la cuisine de ma grand-mère, qui était très conviviale et assez traditionnelle. Mais c'était une grande cuisinière aussi, hein. Mais celle de ma mère était beaucoup plus délicate, sophistiquée et goûteuse à mon souvenir. Mais je pense que non, je pense que c'est complètement subjectif cette vision de la grand-mère. Alors bien sûr, dans les traditions familiales, c'est toujours le plat de la mère ou de la grand-mère qui est le meilleur couscous, le meilleur gâteau au chocolat, la meilleure tarte aux pommes. C'est toujours sa maman qui fait le meilleur ou la grand-mère. Mais c'est subjectif, c'est un truc émotionnel, c'est parce que c'est complètement lié à l'affectif.
Bien.
Alors, vous disiez que c'était.
Si vous voulez, Manu.
Mais juste en un mot, je voudrais préciser une chose.
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose en un mot?
En un mot, ouais. Ah oui. Ça sortait aujourd'hui M, le magazine du monde, mais oui. pour préciser aux auditeurs qui n'aillent pas dans un kiosque de demander M, le magazine
oui.
du monde, parce qu'en fait, c'est le supplément.
C'est le supplément
du quotidien Le Monde d'aujourd'hui.
Absolument, voilà. Qui est dans les kiosques à Paris à partir du vendredi soir et dans tout le reste de la France à partir du samedi matin dans les kiosques avec Le Monde.
Voilà, donc voilà. La précision est faite.
Bien, c'est une affaire de goût jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, l'émission qui vous fait manger le morceau avec Manuel Mariani, qui est là, et notre invité aujourd'hui, Camille Labro, à l'occasion de l'apparition de Affaire de goût, 80 recettes mémoire, un très bel éditeur, on va dire, c'est les éditions du Rouergue.
Ouais.
Pour tous ceux qui aiment cette maison, et cette phrase magnifique qui dit « En cuisine, l'ailleurs est partout et les migrations sont dans les assiettes
». C'est vrai.
C'est vrai que c'était une vraie question de fusion, de migration.
Il y a des voyages et beaucoup d'intimes et beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que le livre est classé et chapitré de manière un petit peu affective. C'est pas alphabétique, c'est pas saisonnier,
oui,
c'est pas les
volailles, les viandes,
non,
les machins. Ouais.
C'est en fait on a ça, c'était vraiment d'ailleurs le supplément d'âme. L'un des suppléments d'âme apportés par le bouquin, et c'était une volonté de mon éditrice Nathalie Desmoulins qui d'Auerbergue qui m'a dit ce serait bien qu'on réfléchisse à une autre manière de présenter les affaires de goût, à quelque chose qui leur donne plus de sens.
Oui, qui les mette en valeur.
Voilà.
C'est-à-dire que là c'est pas une inclusion dans un magazine généraliste, là on est effectivement sur un fil rouge.
Oui, mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi un livre de recettes.
Ah oui,
ah,
oui.
Vraiment, oui.
Voilà. C'est un livre de portraits et de recettes.
Et de recettes. Ça, c'est
sûr.
Très important.
C'est fondamental, il y a 80 portraits, 80 recettes.
Voilà, et des recettes simples à faire. Ouais. Très, très simples à faire. Il y a même la recette du gâteau au yaourt, pour tout vous dire.
Voilà, oui, et il y a même la recette du chocolat chaud.
Ouais.
Enfin, qui dans le bouquin s'appelle bouillé au chocolat, mais c'est un chocolat chaud, tout simplement. Donc, c'est très simple.
Alors justement, les gens dont vous faites le portrait et qui donnent qui livrent des recettes qui leur sont chères dans le livre sont tous des gens donc qui gravitent dans le milieu de la gastronomie, pas de chefs comme on l'a dit, mais justement des gens qui gravitent autour des chefs et autour de la gastronomie, de la restauration. Et on a toujours l'idée que les acteurs de la gastronomie, même quand ils sont chez eux, ils mangent du caviar, de la truffe, des produits d'exception.
Mais non,
et on s'aperçoit qu'en fait, leur kiff, pour parler comme les jeunes, c'est des choses très simples, j'allais pas dire communes, parce que quand on fait un plat simple avec des bons produits, ça n'est jamais commun. Voilà, c'est un peu comme des recettes de grand-mère, quoi, vraiment.
Oui, c'est en fait, si vous voulez, moi, la manière dont je leur demande de réfléchir et de choisir la recette. J'aborde les gens et je leur dis voilà, je voudrais que vous me parliez d'un plat mémoire qui vous tient à cœur, et c'est ça le plus important. C'est pas grave si la recette est archi simple ou un petit peu vieillotte ou voilà, le plus important c'est qu'elle ait un sens pour vous. C'est ça que je cherche avant toute chose. Du coup, je me retrouve avec des recettes qui sont toujours super. Hein. Je vous expliquerai après comment on travaille, mais des recettes qui vont être très ancrées dans un territoire. Par exemple, je pense à la truffade ou au punti, au vergnat.
À une interprétation de la truffade. Hein.
D'accord.
D'accord.
Ok.
Non.
Pourquoi fait... Qu'est-ce que vous avez contre la recette
pour bien connaître l'Aveyron.
Oui.
Voilà. C'est une truffade un peu chichi, on va dire.
Ah bon?
Ah ouais.
Vous trouvez?
Ah ouais.
Pourquoi vous la faites comment, vous, la truffade?
Moi, je la fais pas, je la mange.
Ah d'accord.
Non, mais la truffade, c'est vraiment... c'est une...
Patate, fromage fondu.
Voilà, c'est exactement ça, et ça ressemble à rien.
D'accord.
Vous voyez, c'est un tas qu'on vous met dans l'assiette.
Bon, ok. Bon, d'accord. Ben, moi j'aime bien la recette de truffade qui est là. Alors oui, elle est faite par Pierre Hiverna, qui est un ancien journaliste de Libération.
J'ai pas dit qu'elle était pas bien.
Ben, elle est super bonne. Hein. Vous l'avez essayée?
Non, j'ai pas essayé, mais je disais qu'elle était chichi. Parce que la truffade.
Si, si. Ouais, vous dites ça parce que Pierre Hiverna, il a travaillé aux Inrecuptibles, à Libération et à Mediapart. C'est
pour ça, ouais.
Ouais, ouais.
Et qu'il est...
C'est un a priori.
Non, mais bon, globalement, c'est marrant. Je vais vous donner, je sais pas.
Là, je vous taquine, mais en fait, vous avez beaucoup de réactions suite à cette recette de truffade.
Oui, oui, oui. Voilà, donc, mais d'ailleurs, non.
Parce que là, on touche avec un plat qui est un quart d'une région.
Ouais. Ah ben bah, alors
un
là,
monument,
oui.
Ouais, on touche à un monument.
On touche à un monument, et je peux vous dire voilà. Il y a d'autres monuments que je n'ai pas retenus pour le livre, notamment le Pan Bagna. Ça, c'est pareil. Oh là là, alors si vous touchez au Pan Bagna et que vous avez à le faire, par exemple, dans une baguette plutôt qu'un pain rond, oh !
C'est la cata.
C'est la une sur Nice Matin.
Là, c'est le drame.
Je rigole pas. Fait la une, pas la une peut-être, mais ça a fait une demi-page dans Nice Matin.
C'est comme la salade niçoise ou la bouillabaisse.
Voilà,
ça,
non,
sont
mais
des plats du sud auxquels il ne faut pas
toucher. Ouais. On peut pas déconstruire, on peut pas ajouter, on peut pas réinventer. Alors rien de tout ça. Non, ce qui s'est passé avec la truffade, c'est que elle avait été bien cuite. Elle était bien caramélisée.
Ah, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu gâteau.
Voilà, et du coup, l'Office du tourisme Auvergnat l'avait mis en ligne sur leur Facebook. Et
les auditions du Rouergue.
Voilà. Non, attendez, Philippe, c'était au moment de l'apparition dans Le Monde. Hein.
Ah oui, d'accord.
Dans Le Monde.
Oui. Mais c'était la même photo,
la même photo.
Sur le livre, la photo, elle est bien gratinée aussi.
Elle est bien gratinée.
C'est un gratin de truffade.
Beaucoup moins que...
Elle était plus dans
Le
Monde.
Oui, un peu plus, oui. Il s'était bien caramélisé. Bien doré foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, les commentaires, des centaines de commentaires sur le fil Facebook de l'Auvergne qui disaient c'est un scandale, vous avez cramé la truffade, c'est une honte pour notre région, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, après, et par ailleurs, des gens qui disaient non, mais attendez, c'est super, on parle de la truffade et notre région dans le monde, les gars, calmez-vous. Enfin, gros débat, grosse polémique, tout ça autour, franchement.
Le 20h de TF1.
Fromage et
non, mais ça peut faire le 13h de Pernod. Hein.
Ah, oui, mais c'est sûr. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on allait re-shooter la photo et la faire un petit peu moins grillée. Mais comme l'auteur aimait sa truffade grillée, on l'a quand même fait un petit peu grillée. Moins magma que ce que vous décrivez, Phil. Mmh.
Voilà. Ouais, la peau peut-être bien blanche avec sa dégouline. Enfin voilà. Bon, après, c'est une histoire de goût. C'est une affaire de goût.
C'est une affaire de goût, exactement.
Mais est-ce que finalement. Les plats terroirs, ces plats emblématiques peuvent et leur recette peut évoluer ou c'est figé.
Bah, il faut croire vu l'intransigeance des gens concernés que c'est assez figé. Après, si vous voulez, la salade niçoise. Je prends la salade niçoise qui n'est pas dans le livre, mais qui est un débat perpétuel. Moi, je viens de la région de Niçoise, ah. Donc je suis très concernée par ce débat. D'autant plus que c'est une des choses que je préfère manger. Moi, j'ai toujours mangé une salade niçoise en bonne et due forme. Avec, il faut savoir, c'est très simple, hein, la salade niçoise, c'est que des légumes crus et de saison.
Absolument, voilà.
Que des légumes crus et de saison. Les seules choses qu'on est autorisé à avoir cuit dedans, ce sont les œufs et le thon, si on met du thon à la place des anchois. Voilà, point à la ligne. Pas de haricots verts, pas de pommes de terre, au grand Dieu non.
Ah non.
Ah bah non,
rien de cuit,
sauf les œufs. Et évidemment.
Et encore certains puristes disent que les œufs c'est apparu plus tard, c'est un rajout. Hein.
Voilà, bon, c'est globalement accepté quand même les œufs. Puis c'est bon, hein. Les œufs durs dans la salade.
C'est bon, un petit œuf dur dans une niçoise. Ouais. Bon.
Mais je suis d'accord, on peut s'en passer aussi. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est en saison fin de printemps, c'est les févettes, donc toutes petites fèves, et les artichauts violets.
Crus,
bah, évidemment. Mais moi, je les mange crus, les artichauts.
Les râper à la mandoline.
Ouais. Très très fin, on les cuit pas, on les met en lamelles hyper fines, bien citronnées. Bref, et alors. C'est un débat éternel, c'est-à-dire que j'ai ce débat avec plein de gens sur « mais non, on met des patates dans la salade niçoise ». On met jamais, et je vous avoue que j'y tiens. Et donc, ce que je réponds, c'est très simple, je dis « mais fais une salade avec des patates, mais appelle pas ça une salade niçoise, c'est tout la salade niçoise ». Et donc, ça m'est arrivé avec des gens très très bien d'aller chercher le fameux bouquin de Jacques Médecin, où il y a toutes les recettes.
L'ancien maire de Nice.
Voilà, oui. Qui n'était pas très recommandable en tant que maire, mais qui a quand même fait un bouquin fondateur pour la cuisine niçoise.
Qui était un très, très bon cuisinier, Jacques.
Très bon cuisinier, très bon cuisinier. C'était les recettes aussi de sa famille, de son père, de sa grand-mère aussi. Et donc, dans ce bouquin, plusieurs fois, il m'est arrivé d'aller chercher. Je l'ai même pris en photo et je l'ai gardé sur mon iPhone pendant un moment pour montrer, regarde, non. Dans la recette tradie, il n'y a pas de patates. Voilà. Mais effectivement, il y a une sensibilité très particulière sur ce genre de recette. Et après, c'est marrant ces cuisines de terroir parce qu'il y a aussi des interprétations selon les familles. Un partage au niveau régional, etc., mais aussi des interprétations et des appropriations familiales, notamment pour tout ce qui est soupe et tout ce qui est viande en ragoût et ces choses-là qui sont assez qui peuvent être adaptées en fait selon les besoins, les saisons, les régions, etc.
Oui, et puis les restes de la semaine aussi, oui. Parce que la cuisine ménagère souvent on accommode les restes de cuisine ou autre, donc c'est vrai que ça influe aussi, oui.
Oui.
Alors, il y a des recettes très simples, par exemple, des recettes qui font débat. On a parlé de la truffade, ouais. Mais il y a un autre sujet qui fait débat, c'est les pâtes bolognaises.
Ah ah, les pâtes bolognaises. Alors là, qui ont été faites dans
Al ragoût,
dans le livre par Guillaume Long, le fameux dessinateur que j'aime beaucoup d'une série qui s'appelle À boire et à manger. Et il n'est pas italien. Alors déjà, ça peut énerver certains lecteurs. Par contre, sa compagne, femme, je crois, est italienne et c'est elle qui lui a appris en bonne et due forme. Alors, donc la bolognaise, mais il y a aussi la carbonara que j'ai fait ensuite qui est pas dans le bouquin. Et là, il y a encore plus de débats sur la carbonara. Hein, mais la bolognaise de Guillaume Long, elle est super, un peu compliquée. Un peu au long cours parce que il y a beaucoup de mijotage, il met des, si je me souviens bien, je l'ai pas relu récemment, mais des graines de coriandre, je crois. Il fait vraiment revenir ses petits légumes longuement. C'est assez sophistiqué. C'est pas la bolo.
C'est vrai qu'en plus, enfin moi, pour moi, les pâtes à la ragoût et les bolognaises sont deux plats différents, mais disons que
c'est pour ça qu'ils les appellent à la ragoût.
Mais disons que c'est quand on n'a pas de reste de daube ou de viande mijotée, on fait une bolognaise. Si on a des restes de viande mijotée, on fait des pâtes à la ragoût.
Voilà, c'est ça. C'est bien résumé, Manu.
Merci.
C'est bien.
À le ragoût, c'est des pâtes au reste.
C'est les pâtes qu'on fait avec des
restes. Mais avec de la viande et de la tomate.
Voilà.
Quand
et
même.
Du coup, la viande, elle est effilochée, elle est pas hachée. Oui. Parce que si on hache de la viande déjà cuite, ça fait de la bouillie.
C'est pas de la farce, en fait.
Ça fait de la bouillie, voilà.
Ouais.
Donc on effiloche. Et les pâtes à le ragoût, du coup, il y a un peu plus de mâche. Moi, je préfère. C'est un peu plus sympa. Et puis, il y a toujours un petit reste de goût de la sauce originelle qui s'ajoute à la sauce tomate qu'on ajoute, etc. Donc, c'est un plat que j'aime beaucoup, en tous les cas. Ça change des bolognaises. Ça, c'est une recette à essayer dans le
livre. La recette de al ragoût, franchement, je me souviens quand on l'a fait avec Guillaume Long, on l'avait fait chez moi. C'est ce que je propose souvent quand mes interlocuteurs ne sont pas parisiens, parce que j'habite Paris, mais Guillaume Long est lyonnais, enfin habite à Lyon, et il était venu donc à la maison. On a cuisiné ensemble, ce qui est fort sympathique quand on fait cette rubrique, et on a mangé ensemble, et c'était un mercredi, je crois, et mes enfants étaient là. Je peux vous dire, alors d'une part, ils étaient enchantés de rencontrer Guillaume Long, donc ils adorent le travail. Et en plus, ils ont mangé cette pasta et ils m'ont dit, maman, c'est la meilleure bolo qu'on a jamais mangée. Et d'ailleurs, maintenant, ils ne veulent plus qu'on fasse que celle-là. Hein. Donc voilà.
D'ailleurs, est-ce que vous-même, vous êtes bonne cuisinière, Camille Labro?
Oui.
Dit-elle modestement.
Voilà,
j'adore
cuisiner. Je cuisine énormément, comme je vous disais tout à l'heure. Je m'efforce de cuisiner tous les jours pour mes enfants le soir. Parfois, en 15 minutes. Hein. Il faut pas parfois peu de temps pour faire un bon petit plat, surtout quand on a des bons produits dans le frigo. Mais j'aime beaucoup ça. En fait, c'est mon moment, ma soupape de détente. J'écris à la maison très souvent, donc je passe d'une pièce à l'autre. Finalement, je passe de mon bureau à la cuisine. Et le moment où je rentre dans la cuisine en me disant, qu'est-ce que je vais faire à manger? Parfois, je ne sais rien. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire à manger à 19h.
Freestyle.
Je regarde dans le frigo. Je dis, ah, tiens, ça. Ok, super. Et on fait un truc très bon, très simple. Je me fais beaucoup aider par mes enfants maintenant, qui sont ados, 12 et 14. Il y en a un, le grand, qui s'est spécialisé dans la pâtisserie. Et ma fille qui est plus sur le salé. Donc qui me
c'est souvent l'inverse en général.
Ouais,
hein.
Non, mais là, ils sont plutôt sur cette lancée-là.
Bon, ouais. Donc la relève est assurée,
ouais,
chez les Labros.
Mais non, puis lui, alors le grand, il fait des trucs que moi je sais pas faire. Hein, là, ce matin, avant que je parte, il faisait sa pâte feuilletée pour faire des galettes des rois.
Ah oui, à ce point-là, il faisait sa pâte feuilletée lui-même.
Bah alors, il faut dire c'est que j'ai fait une affaire de goût il y a deux semaines
spéciale
sur la galette.
Pâte feuilletée, ouais.
Cette pâte feuilletée galette, du coup, ça l'a inspiré.
Alors une affaire de goût et de famille, donc.
Oui. Puis ça
donc
circule.
Il tourne son beurre et et vas-y.
Et que je te fais tes tours et que je les mets au frigo et. T'es à combien de tours? À 4 tours. Là, je vais faire mon 5e, etc.
Et il fait un vrai. Oui, donc il fait un vrai feuilletage. Il fait pas un feuilletage inversé qui est plus simple. Il fait un vrai feuilletage.
Il fait un vrai feuilletage et il va chercher son beurre spécial parce qu'il faut un beurre un petit peu élevé en gras pour que ça marche bien, etc.
Oh, chapeau les labros.
Il a fait son petit stage de 3e dans une superbe pâtisserie qui s'appelle Mirabelle aussi.
D'accord.
Qui fait une pâtissière alsacienne. Qui fait des merveilleux kouglof et pâtisserie en tout genre et Madeleine sublime Mirabelle dans le 11e arrondissement à Paris, c'est top.
Bien, on parlera de pâtisserie tout à l'heure parce qu'il y a notamment un gâteau au pamplemousse qui est une tuerie dans votre livre. On en parle ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Dessus de table revient dans un instant.
On est revenu tellement vite, on revient tout de suite dessus de table. Alors aujourd'hui, c'est une affaire de goût à travers la sortie du livre de notre invité qui s'appelle Camille Labro aux éditions du Rouergue. L'affaire de goût, c'est une affaire de nous tous, hein, puisque chacun a son propre goût. Est-ce que finalement, les goûts, d'après ce que vous avez observé des gens que vous avez interrogés, se figent et se fixent dans l'enfance et ils n'évoluent pas par la suite?
Ça dépend des gens. Mais je pense que non, ça évolue. Ce qui est marrant, c'est souvent que les souvenirs qu'on me raconte ne correspondent pas à la recette d'enfance. Et d'ailleurs, je dis aux gens, la recette que vous me donnez n'est pas nécessairement celle du fameux plat de votre grand-mère. Ça peut être votre réinterprétation et votre souvenir. Il y a pour ça l'une de mes histoires préférées dans le bouquin, c'est celle de Ryoko Sekiguchi, qui est une merveilleuse auteure japonaise installée en France, qui écrit en français hein, et qui fait des livres absolument délicieux sur tous les plans.
C'est celle qui fait le
ryoté ? Non, ça c'est Shihiro Matsue, qui est aussi une auteure.
Ma voisine.
Ryoko fait un canard à la japonaise. Et en fait, l'histoire, je vous la résume très rapidement, c'est pas sa recette, la recette dont elle me parle dans son portrait n'est pas ce plat-là. C'est un plat de Nouvel An que lui faisait sa grand-mère au canard, dans une espèce de soupe, un plat traditionnel japonais. Et elle s'est rendue compte, après la mort de sa grand-mère, que sa grand-mère ne lui faisait que pour elle, qu'il n'y avait aucun autre membre de la famille qui ne goûtait à ce plat, et que quand sa grand-mère a disparu, eh ben elle est partie avec la recette. Et donc, Ryoko me raconte cette histoire, donc une histoire de mémoire enfouie.
C'est une recette hommage, plus que la recette de sa grand-mère.
Non, mais c'est surtout une recette qui n'est plus. Qu'elle n'a que dans sa tête.
La grand-mère est partie avec la recette.
La grand-mère
est partie avec la recette. Et la personne.
Non, parce que même la maman de Ryoko ne connaissait pas l'existence de ce plat, puisqu'elle ne l'avait jamais mangé, puisqu'elles se sont rendues compte après coup que la grand-mère ne l'avait fait que pour Ryoko.
Quel scandale.
Et du coup, Ryoko m'a dit simplement, moi, je vais te faire un plat de canard qui me rappelle un petit peu ce plat-là, mais je ne vais pas te faire le plat de mon plat
souvenir. C'est plutôt du magret de souvenir.
Voilà, c'est un magret.
Aujourd'hui,
c'est un
magret qui est fait.
Mais c'est un magret, d'ailleurs délicieux, un magret mariné exquis. Mais c'est un hommage et elle me dit, je ne peux pas te faire cette recette parce que déjà, je ne l'ai pas et par ailleurs, je ne voudrais pas parce que c'est ma mémoire intime. Voilà. Et je trouve ça très très joli. C'est une espèce
c'est
de
génial,
c'est un reflet de recette en fait ce qu'elle me raconte. Et donc il y a souvent ça aussi.
Oui, ils sont pas que des histoires de cuisine, ce sont des histoires humaines aussi.
Ah ben c'est surtout des histoires
surtout
humaines.
Même, et surtout même.
Mais même les recettes, vous savez, c'est toujours des histoires humaines parce que une recette qui évolue au fil du temps, d'un auteur à l'autre, d'un livre à l'autre, etc. Qu'est-ce qui les fait évoluer? C'est les gens qui les font, qui les mangent. Il y a toujours l'humain, l'individu au milieu de tout ça. Une recette, elle n'existe pas toute seule. Hein, il faut qu'elle soit faite et manger pour exister. Donc il y a aussi les gens qui font les produits derrière, les paysans qui cultivent les plantes, qui pêchent les poissons, qui élèvent les animaux qu'on mange. Tout ça, ça fait partie de l'histoire d'une recette, toujours.
Oui, alors là on parlait de votre livre, mais on parlait du fait que ce n'était pas des chefs, mais les chefs vous travaillez aussi avec, puisque vous avez une série documentaire qui commence le 27 janvier sur la chaîne Planète Plus.
Oui.
donc du groupe Canal+, qui s'appelle Planète Chef.
C'est ça.
D'ailleurs, hein.
C'est ça.
Et donc, expliquez-nous un petit peu, parce que là, vous travaillez avec des chefs, vous êtes allé rencontrer des chefs, et vous parlez un peu de fusion culinaire. Alors, il y a des chefs aussi variés que Taku Sekin, Morocco Lagreco, Alan Jam, que j'aime beaucoup, qu'on a déjà reçu d'ailleurs, un autre chef qu'on aime beaucoup, Juan Arbelaez.
Ouais.
Le petit colombien de la cuisine française.
C'est ça. Hein.
Ce que j'aime chez Manu, c'est qu'en fait, il part du principe que tout le monde les connaît, ces chefs. Vous voyez, donc,
oui.
Il fait du name dropping comme ça, et puis, alors vas-y.
Alors, Juan Arbelaez, il est oui. Non, il est très connu, Philippe.
Oui.
Hein. Il est très connu.
Les autres.
Et il est très connu parce qu'il a fait Top Chef, notamment.
Parce qu'il a fait Top Chef, et il est en couple avec une ex-Miss France, Laurent Tillman.
Voilà.
Mais les autres.
Alors, bah, je vais vous dire, moi.
Morola Calegreco, il a été élu plusieurs fois meilleur chef ouais. français au monde.
Hein? Non, c'est une série donc qui s'appelle Planète Chef. C'est huit films de 52 minutes avec huit chefs. C'est huit portraits en fait. L'idée étant de rencontrer des chefs étrangers qui sont installés en France et qui cuisinent, comme vous dites, un petit peu fusion, Manu. Mais c'est surtout de la cuisine française avec des imprégnations et des inspirations de leur pays,
un zeste d'ailleurs.
Le mot fusion est toujours un peu difficile, eux ils n'assument pas. Et donc ce sont des histoires encore, hein, évidemment des histoires humaines, mais là avec des chefs effectivement qu'on raconte. Moi je suis la co-auteur de cette série qui est réalisée par Stéphane Carrel et Antoine Coursin. Enfin il y a deux réalisateurs en interne.
Les images sont très très belles. Hein,
les images sont magnifiques. Et donc on est allé en fait, on m'a demandé de réfléchir au casting déjà, et c'était pas évident de trouver ces personnalités qui à la fois veulent, on le souhaite et l'envie de participer à un film qui dure une heure quasiment et un tournage
donc c'est
assez
quelques heures de tournage pour faire une heure
c'est quelques jours vous voulez dire ouais c'est même deux semaines au total à chaque fois et donc déjà des gens qui ont comme ça une personnalité assez il y a des chefs hein, qui ne veulent être qu'en cuisine qui ne veulent pas parler de leur cuisine qui ne savent s'exprimer qu'à travers l'assiette
chef un peu autiste
voilà ouais. Non mais ça existe et je les respecte complètement
connaît,
mais c'est pas évidemment ceux-là qu'on peut aller filmer passer 52 minutes avec eux. Donc ça a été le ça et puis des chefs qui ont cette histoire double qui sont venus d'ailleurs s'installer en France.
Qui n'ont pas grandi en France. Quoi,
voilà,
en
fait. Qui n'ont pas grandi en France, mais qui avaient la fascination pour la France, pour la cuisine française, pour ses traditions, qui viennent et qui finalement lui redonne du peps. C'est-à-dire que quelqu'un comme vous parliez de Moro Colagreco tout à l'heure, quelqu'un comme Moro, c'est un chef qui est donc installé à Menton et qui fait une cuisine extraordinaire, très très élaborée. C'est un restaurant de haute gastronomie, très cher, etc. Mais si vous avez l'occasion d'économiser pour aller dans ce resto, ça vaut vraiment le coup. C'est un de ceux qui vaut vraiment le coup. Et lui, il fait une cuisine.
Ah, c'est intéressante là, parce que les autres, ils valent pas le coup.
Ah, il y en a qui valent pas toujours le coup.
Qui valent pas le prix, qui valent pas.
Non. Ah ouais. Moi, c'est un autre débat, mais on en parle après si vous voulez. Moi, je pense qu'il y a certains restaurants où ça ne vaut pas du tout le coup d'aller dépenser 200-300 euros. Enfin, ces trucs astronomiques qui servent à rien. Mais bon.
Donc lui, si vous voulez, ça
vaut le coup. Parce qu'il y a un vrai travail à la fois avec des très bons produits de la région, en direct avec les producteurs, un vrai respect de la terre et de ce qui en sort, et sur les goûts qui est phénoménal, et sur ses inspirations multiples. Parce que Moro, il est intéressant aussi en ceci qu'il vient d'Argentine, mais ses parents d'une famille italienne, et qu'il est à la frontière italienne. Donc il est vraiment, il fait ce qu'il appelle lui-même une cuisine des frontières, où il va chercher des produits, il a travaillé avec les plus grands chefs français, Alain Passard, Ducasse, etc. Et il va... Attendez, correction, je ne suis pas sûre qu'il ait bossé avec Ducasse.
Bon.
Mais Passard, c'est sûr. Et c'est une de ses grands...
Il a formé quelques grands chefs aussi, puisqu'on nos auditeurs
souviennent
peut-être. On avait reçu Raphaël Gomez ici pour parler du barbecue. C'était en été, je crois. Et Raphaël Gomez est l'ancien second de Morocco Lagreco. Il vient de gagner d'ailleurs le Masterchef professionnel au Brésil.
C'est ça, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça il y a quelques jours, en effet. Bravo, Raphaël. C'est donc une cuisine qu'on va retrouver qui est unique, finalement. C'est avec toutes ses inspirations et ses influences, ce que fait Moro au Mirazur est juste unique.
Est-ce qu'il y a des chefs d'origine du Maghreb?
Eh ben, figurez-vous que je voulais faire Akram et qu'il n'a pas voulu.
Bah, Akram, il veut pas.
Il veut non,
pas,
mais ce qu'il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a dit, mais
non, c'est... Il dit non.
Voilà, mais ce qu'il m'a dit non, très gentiment, hein. On s'entend très bien avec Akram.
Alors, Akram, on va peut-être lui donner un nom de famille.
Akram Ben Halal.
Ben Halal. Mais il se dit lui-même, il s'appelle lui-même Akram. Alors, il m'a dit, moi, je considère que ma cuisine est vraiment française et je préfère ne pas parler, ne pas y faire venir mes racines.
Même s'il a un restaurant qui ne fait pas que de la cuisine française, hein.
Oui, enfin, il n'a aucun. Enfin, moi, je trouve que Akram, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais. Je le trouve un peu amnésique sur ses racines, parce qu'effectivement, quand il fait de la cuisine étrangère, ce n'est pas la cuisine de ses racines, justement.
C'est un choix.
Et je sais pas, enfin, moi, je...
Vous savez, c'est ce que me racontait Alan Jam. C'est qu'il, quand il a, avant qu'il ouvre son resto gastronomique éponyme,
l'auberge dans, Nicolas Flamel.
Voilà, à Nicolas Flamel, il faisait une cuisine inspirée d'Asie. Alors, il faut savoir que Alan est originaire
libanaise.
Mais qu'il a un petit peu grandi en Afrique aussi et aux États-Unis et que c'est d'ailleurs son passage aux États-Unis qui lui a donné envie de retourner au Liban parce que franchement c'était le désert alimentaire aux États-Unis et que ça c'était déplorable et il préfère être dans la guerre civile au Liban que dans le désert alimentaire américain.
Oui, alors non parce que vous parlez de Nicolas Flamel, Manu,
oui.
Mais il y a une recherche qui est faite sur votre livre et j'ai pas trouvé la réponse qui est ce fameux cuisinier de Pierre de Lune.
Ah, alors là, on revient au
Ouais, non, mais
oui, c'est vrai.
Là,
oui.
C'est parce que Nicolas Flamel, c'est le plus vieux restaurant de...
C'est le plus vieux, le plus vieil immeuble de Paris.
Oui, de Paris.
Là où il y a l'auberge Nicolas Flamel.
Je sais pas si on n'est pas très loin de 1650, finalement.
C'est ça. Vous avez raison.
Et donc, je voulais savoir qui c'est ce fameux cuisinier de Pierre de Lune.
Alors, il faut juste que je fasse un tout petit retour en arrière. Là, c'est dans l'histoire de Michel Barrière, qui est une historienne et une romancière de la gastronomie. Et qui raconte que c'est la recette de son canard magique, hein, c'est un canard, encore un canard, avec des épices, etc., était une recette de Pierre de Lune qui était faite à l'époque de Louis XIV et qui est arrivée au moment où il y avait déjà une passation vers une nouvelle cuisine, je mets des guillemets, parce que hein, on n'était pas à notre époque,
oui, c'est
et où la nouvelle cuisine, comme prenait à l'époque par les cuisiniers de l'époque, devait se libérer des épices, des goûts d'ailleurs, justement, et venir à une cuisine plus franco-française. Ce débat revient tout le temps, c'est incroyable. Hein. Et avec des primeurs, des petits légumes, du jardin, de la cantine, etc. Pierre de Lune, c'est un pseudo, si j'ai bien compris. Moi, j'ai fait ma petite recherche et j'ai fait comme vous. Hein. Quand Michel Barrière m'en a parlé, j'ai dit, mais qui c'est Pierre de Lune? Elle m'a montré la recette et ça, elle avait le bouquin de Pierre de Lune. C'est un pseudo. Alors, je suis incapable de vous dire le nom du cuisinier, mais c'était un cuisinier de la noblesse, hein. De la cour, je ne sais plus où et quoi, qui avait ce pseudo de cuisinier. Et qui a publié des recettes d'époque, de l'époque Louis XIV.
Bien.
Bon, voilà. Bah,
c'est une belle histoire.
Pour la petite. Pour
non,
la
mais après, moi, quand je cherche et que je trouve pas, ça m'énerve.
Ah oui, non, oui. Parce qu'on a cherché beaucoup avec Philippe. Hein,
Bah oui, mais non, mais j'ai pas trouvé. Mais moi, je le sais parce que Barrière m'avait raconté ça et m'a montré le bouquin. Voilà.
D'accord.
Mais pour revenir à Planète Chef, c'est donc ces chefs qui ont à chaque fois des inspirations. D'ailleurs, mais qui sont vraiment ancrés qui sont là par amour de la cuisine française.
C'est le cas d'Alain Jeham que vous citez.
Oui, tout à fait. Et Alain Jeham a s'est trouvé finalement et a trouvé son étoile Michelin qu'il a eu l'année dernière parce qu'il est aussi renoué avec ses racines libanaises. Et maintenant, dans son restaurant éponyme.
Sa cuisine, il travaille la mélasse de grenade, par exemple. Il fait des houmous de.
C'est ça. Et il a accepté finalement de sortir un peu du yuzu, de la sauce soja, chose qu'il utilisait avant. On sait pas trop pourquoi, parce que c'est branché d'utiliser ça dans la cuisine aujourd'hui, faut croire, pour assumer d'où il vient, quoi.
Et est-ce qu'on écrit pour la télé quand on est auteur pour une série?
Ah, ben oui.
Est-ce qu'on écrit pour la télé comme pour la presse écrite?
Alors c'est pas du tout le même exercice, mais on écrit beaucoup. Si vous voulez pour une série, pour un épisode de 52 minutes, il faut écrire un scénario qui dure 10 minutes, qui dure 10 pages, et c'est beaucoup de travail et c'est d'autant plus de travail qu'en général le résultat ne correspond pas du tout à ce que j'ai écrit. Mais c'est pas grave, c'est du documentaire. Donc en fait la chaîne le réalisateur, les producteurs derrière ont besoin d'une base de
vous
travail.
Vous écrivez une trame, mais quelque part, c'est le chef qui va écrire
Mais d'ailleurs, le scénario, il s'écrit beaucoup avec le chef. Je suis en communication perpétuelle avec le chef pour savoir qu'est-ce qu'on va raconter, où est-ce qu'on va aller, qui on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va cuisiner, etc. Et une fois que tout ça est mis sur le papier, le film, le tournage démarre. Et là, tout peut partir dans tous les sens. On va rencontrer d'autres personnages, faire d'autres plats et goûter d'autres choses. Et c'est pas très grave. C'est aussi la beauté du documentaire qui est dans le réel.
Alors là, vous avez vécu un peu dans l'intimité des chefs pendant de ces chefs en tous les cas pendant quelques temps. Vous êtes souvent avec des chefs pour parler cuisine. Là, il y a le Michelin qui sort bientôt. Oui. Vous avez un pronostic sur les nouveaux étoilés ou des envies, sans que ce soit des pronostics?
Ouais, écoutez, moi, je crois que je suis pas la bonne personne qui peut vous parler du Michelin parce que je j'y crois pas trop. Comment dire?
C'est-à-dire, attendez, vous voyez pas quoi? Une institution, là.
Je précise. Le Michelin était extrêmement important pour les restaurants et pour les restaurateurs. C'est évident une étoile supplémentaire Michelin vient renflouer le chiffre d'affaires d'un restaurant. C'est évident et on n'y coupe pas. Et c'est presque ça qui est malheureux parce que même les restaurateurs et les chefs qui disent moi je m'en fous du Michelin ont un espoir d'avoir une étoile, mais simplement pour que leur business aille bien.
Il y a des restaurants qui méritent d'être pleins, mais qui n'ont pas d'étoile.
Voilà, qui n'ont pas d'étoile, donc ils sont un petit peu sous le radar et qui n'ont et je déplore un petit peu ça, que ce soit juste que ce soit juste lié au Michelin. Mais à part ça, bon, moi, je souhaite à tous d'obtenir ce qu'ils veulent. Je vais pas vous faire de pronostics. Voilà.
Allez, votre livre s'appelle « Affaire de goût » aux éditions du Rouet. Il y a 80 recettes mémoires donc, qui sont dans votre livre. Merci Camille.
Merci de
m'avoir
été aussi
avec nous et on vous suit à la télé.
Camille.
C'est quand, Manu?
Oui, sur Planète Chef. Alors la diffusion
démarre...
Planète Plus, pardon. Oui. Mais l'émission s'appelle Planète Chef, le documentaire. Et ça commence le 17 janvier à 20h55.
27 janvier.
Le 27 janvier, pardon. Ah, je vais y arriver, à 20h55 avec Taku Sekin. Et ça reprend à 21h55 avec Mauro Colagrégo, justement.
C'est ça.
Super, merci d'avoir été avec nous. Bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.